Chapitre 6. Premier pas hors de Saint-Sulpice. J'ai dit comment, le 6 octobre 1845, je quittais définitivement le séminaire de Saint-Sulpice et j'allais prendre une chambre à l'hôtel le plus voisin. Je ne sais pas quel était le nom de cet hôtel. On l'appelait toujours l'hôtel de Mademoiselle Céleste, du nom de la personne recommandable qui en avait l'administration ou la propriété. C'était sûrement un hôtel unique dans Paris que celui de Mademoiselle Céleste, une espèce d'annexe du séminaire où la règle du séminaire se continuait presque. On n'y était reçu que sur une recommandation de ces messieurs ou de quelque autorité pieuse. C'était le lieu de séjour momentané des élèves qui, en entrant au séminaire ou en en sortant, avaient besoin de quelques jours libres. Les ecclésiastiques en voyage, les supérieurs de couvent, qui avait des affaires à Paris, y trouvait un asile commode et à bon marché. La transition de l'habit ecclésiastique à l'habit laïque est comme le changement d'état d'une chrysalide. Il y faut un peu d'ombre. Certes, si quelqu'un pouvait nous dire tous les romans silencieux et discrets que couvrit ce vieil hôtel maintenant disparu, nous aurions d'intéressantes confidences. Il ne faudrait cependant pas que les conjectures des romanciers fissent fausse route. Je me rappelle Mademoiselle Céleste. Dans le souvenir reconnaissant que beaucoup d'ecclésiastiques conservaient d'elle, il n'y avait rien qui, au point de vue des canons les plus sévères, ne se pût avouer. Pendant que j'attendais, chez Mademoiselle Céleste, que ma métamorphose fût achevée, la bonté de M. Carbon ne restait pas inactive. Il avait écrit pour moi à M. l'abbé Gratry, alors directeur du collège Stanislas, et celui-ci me fit offrir un emploi de surveillant dans la division supérieure. Je vis M. Dupanloup, qui me conseilla d'accepter. « Ne vous y trompez pas, me dit-il. M. Gratry est un prêtre distingué, tout ce qu'il y a de plus distingué. » J'acceptai. Je n'eus qu'à me louer de tout le monde, mais cela dura 15 jours à peine. Je trouvai que ma situation nouvelle impliquait encore ce à quoi j'avais voulu mettre fin en sortant du séminaire, je veux dire une profession extérieure avouée de cléricature. Je n'eus ainsi avec M. Gratry que des rapports tout à fait passagers. C'était un homme de cœur, un écrivain assez habile, mais le fond était nul. Le vague de son esprit ne m'allait pas. M. Carbon et M. Dupanloup lui avaient dit le motif de ma sortie de Saint-Sulpice. Nous eûmes ensemble 2 ou 3 entretiens où je lui exposais mes doutes positifs fondés sur l'examen des textes. Il n'y comprit rien, et son transcendant dut trouver ma précision bien terre à terre. Il n'avait aucune science ecclésiastique, ni exégèse, ni théologie. Tout se bornait à des phrases générales, à des applications puériles des mathématiques, à ce qui est matière de fait. L'immense supériorité de la théologie de Saint-Sulpice sur ses combinaisons creuses, se donnant pour scientifique, me frappa bien vite. Saint-Sulpice sait d'original ce qu'est le christianisme. L'école polytechnique ne le sait pas. Mais, je le répète, l'honnêteté de M. Gratry était parfaite. Et c'était un homme très attachant, un vrai galant homme. Je me séparai de lui avec regret. Mais je le devais. J'avais quitté le premier séminaire du monde pour un autre qui ne le valait pas. La jambe avait été mal remise, j'eus le courage de la casser de nouveau. Le 2 ou 3 novembre 1845, je franchis le dernier seuil par lequel l'Église avait voulu me retenir, et j'allais m'établir dans une institution du quartier Saint-Jacques, relevant du lycée Henri IV, comme répétiteur au père, c'est-à-dire, selon le langage du quartier latin d'alors, sans appointement. J'avais une petite chambre, la table avec les élèves, à peine 2 heures par jour occupées, beaucoup de temps par conséquent pour travailler. Cela me satisfaisait pleinement. Avec la faculté que j'ai de suffire à mon propre bonheur et d'aimer par conséquent la solitude, la petite pension de la rue des Deux Églises eût été en effet pour moi un paradis, sans la crise terrible que traversait ma conscience et le changement d'assise que je devais faire subir à ma vie. Les poissons du lac Baïkal ont mis, dit-on, des milliers d'années à devenir poissons d'eau douce, après avoir été poissons d'eau de mer. Je dus faire ma transition en quelques semaines. Comme un cercle enchanté, le catholicisme embrasse la vie entière avec tant de force que quand on est privé de lui, tout semble fade. J'étais terriblement dépaysé. L'univers me faisait l'effet d'un désert sec et froid. Du moment que le christianisme n'était pas la vérité, le reste me parut indifférent, frivole, à peine digne d'intérêt. L'écroulement de ma vie sur elle-même me laissait un sentiment de vide, comme celui qui suit un accès de fièvre ou un amour brisé. La lutte qui m'avait occupé tout entier avait été si ardente que maintenant je trouvais tout étroit et mesquin. Le monde se montrait à moi médiocre, pauvre en vertu. Ce que je voyais me semblait une chute, une décadence. Je me crus perdu dans une fourmilière de pygmées. Ma tristesse était redoublée par la douleur que j'avais été obligé de causer à ma mère. J'employais, pour lui arranger les choses de la manière qui pouvait lui être le moins pénible, quelques artifices auxquels j'eus peut-être tort de recourir. Ces lettres me déchiraient le cœur. Elles se figuraient ma position encore plus difficile qu'elle ne l'était. Et comme, en me gâtant malgré notre pauvreté, elles m'avaient rendu très délicat, elles croyaient qu'une vie rude et commune ne pourrait jamais m'aller. « Toi, qu'une pauvre petite souris empêchait de dormir, m'écrivait-elle. Comment vas-tu faire ? » Elle passait ses journées à chanter les cantiques de Marseille, qui était son livre de prédilection, surtout le cantique de Joseph. « Ô Joseph, ô mon aimable, fils affable, les bêtes t'ont dévoré, je perds avec toi l'envie d'être en vie, le Seigneur soit adoré. » Quand elle m'écrivait cela, mon cœur était navré. Dans mon enfance, j'avais l'habitude de lui demander 10 fois par jour, « Maman, êtes-vous contente de moi ?» Le sentiment d'un déchirement entre elle et moi m'était cruel. Je m'ingéniais alors à inventer des moyens pour lui prouver que j'étais toujours le même fils affable que par le passé. Peu à peu, la blessure se cicatrisa. Quand elle me vit rester pour elle aussi bon et aussi tendre que je l'avais été, elle admit volontiers qu'il y a plusieurs manières d'être prêtre, et que rien n'était changé en moi que le costume. Et c'était bien la vérité. Mon ignorance du monde était complète. Tout ce qui n'est pas dans les livres m'était inconnu. Comme, d'ailleurs, je n'ai jamais bien su que ce que j'ai appris à Saint-Sulpice, la conséquence a été qu'en affaires, je suis toujours resté un enfant. Je ne fis donc aucun effort pour rendre ma situation aussi bonne que possible. Penser me paraissait l'objet unique de la vie. La carrière de l'instruction publique étant celle qui ressemble le plus à la cléricature, je la choisis presque sans réflexion. Certes, il était dur, après avoir touché à la plus haute culture de l'esprit et avoir occupé une place déjà honorée, de descendre au degré le plus humble. Je savais mieux que personne en France, après M. Le Hire, la théorie comparée des langues sémitiques, et ma position était celle du dernier maître d'études. J'étais un savant et je n'étais pas bachelier. Mais la satisfaction intime de ma conscience me suffisait. Je n'eus jamais, au sujet de mes résolutions décisives du mois d'octobre 1845, une ombre de regret. Une récompense, d'ailleurs, me fut réservée dès le lendemain même de mon entrée dans la pension obscure où je devais occuper durant 3 ans et demi la situation la plus chétive. Parmi les élèves, il y en avait un qui, à raison de ses succès et de son avancement, occupait un rang à part dans la maison. Il avait 18 ans, et déjà l'esprit philosophique, l'ardeur concentrée, la passion du vrai, la sagacité d'invention, qui plus tard devait rendre son nom célèbre, étaient visibles pour ceux qui le connaissaient. Je veux parler de M. Berthelot. Ma chambre était contiguë à la sienne. Et dès le jour où nous nous connûmes, nous fûmes pris d'une vive amitié l'un pour l'autre. Notre ardeur d'apprendre était égale. Nos cultures avaient été très diverses. Nous mîmes en commun tout ce que nous savions. Il en résulta une petite chaudière où puisaient ensemble des pièces assez disparates, mais où le bouillonnement était fort intense. Berthelot m'apprit ce qu'on n'enseignait pas au séminaire. De mon côté, je me mis en devoir de lui apprendre la théologie et l'hébreu. Berthelot acheta une Bible hébraïque qui est encore, je crois, non coupée dans sa bibliothèque. Je dois dire qu'il n'alla pas beaucoup au-delà des Sheva. Le laboratoire me fit bientôt une concurrence victorieuse. Notre honnêteté et notre droiture s'embrassèrent. Berthelot me fit connaître son père, un de ces caractères de médecin accompli comme Paris sait les produire. M. Berthelot père était chrétien gallican de l'ancienne école et d'opinion politique très libérale. C'était le premier républicain que j'eusse vu. Une telle apparition m'étonna. Il était quelque chose de plus, je veux dire, homme admirable par la charité et le dévouement. Il fit la carrière scientifique de son fils en lui permettant de se livrer, jusqu'à l'âge de plus de 30 ans, à ses recherches spéculatives, sans fonction, ni concours, ni école, ni travail rémunérateur. En politique, Berthelot resta fidèle aux principes de son père. C'est là le seul point sur lequel nous ne soyons pas toujours d'accord. Car pour moi, je me résignerais volontiers, si l'occasion s'en présentait, je dois dire qu'elle s'éloigne de jour en jour, à servir, pour le plus grand bien de la pauvre humanité, à l'heure qu'il est si désemparé, un tyran philanthrope, instruit, intelligent et libéral. Nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. Nous passions une partie des nuits à chercher, à travailler ensemble. Au bout de quelque temps, M. Berthelot, ayant achevé ses mathématiques spéciales au lycée Henri IV, retourna chez son père, qui demeurait au pied de la tour Saint-Jacques de la Boucherie. Quand il venait me voir, le soir, à la rue de l'Abbé de l'Épée, nous causions pendant des heures, puis j'allais le reconduire à la tour Saint-Jacques, mais comme d'ordinaire la question était loin d'être épuisée quand nous arrivions à sa porte, il me ramenait à Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Puis je le reconduisais, et ce mouvement de va-et-vient se continuait nombre de fois. Il faut que les questions sociales et philosophiques soient bien difficiles pour que nous ne les ayons pas résolues dans notre effort désespéré. La crise de 1848 nous émut profondément. Pas plus que nous, cette année terrible ne devait résoudre les problèmes qu'elle posait. Mais elle montra la caducité d'une foule de choses tenues pour solides. Elle fut pour les esprits jeunes et actifs comme la chute d'un rideau de nuages qui dissimulait l'horizon. Le lien de profonde affection qui s'établit ainsi entre M. Berthelot et moi fut certainement du genre le plus rare et le plus singulier. Le hasard rapprocha en nous deux natures essentiellement objectives, je veux dire aussi dégagées qu'il est possible de l'étroit tourbillon qui fait de la plupart des consciences un petit gouffre égoïste comme le trou conique du Formica Leo. Habitués à nous regarder très peu nous-mêmes, nous nous regardions très peu l'un l'autre. Notre amitié consista en ce que nous nous apprenions mutuellement, en une sorte de commune fermentation qu'une remarquable conformité d'organisation intellectuelle produisait en nous devant les mêmes objets. Ce que nous avions vu à deux nous paraissait certain. Quand nous entrâmes en rapport, il me restait un attachement tendre pour le christianisme. Berthelot tenait aussi de son père un reste de croyance chrétienne. Quelques mois suffirent pour reléguer ces vestiges de foi dans la partie de nos âmes consacrée aux souvenirs. L'affirmation que tout est d'une même couleur dans le monde, qu'il n'y a pas de surnaturel particulier, ni de révélation momentanée, s'imposa d'une façon absolue à notre esprit. La claire vue scientifique d'un univers où n'agit d'une façon appréciable aucune volonté libre supérieure à celle de l'homme, devint, depuis les premiers mois de 1846, l'ancre inébranlable sur laquelle nous n'avons jamais chassé. Nous n'y renouerons que quand il nous sera donné de constater dans la nature un fait spécialement intentionnel, ayant sa cause en dehors de la volonté libre de l'homme ou de l'action spontanée des animaux. Notre amitié fut ainsi quelque chose d'analogue à celle des deux yeux quand ils fixent un même objet et que de deux images résulte au cerveau une seule et même perception. Notre croissance intellectuelle était comme ces phénomènes qui se produisent par une sorte d'action de voisinage et de tacite complicité. M. Berthelot aimait autant que moi ce que je faisais. J'aimais son œuvre presque autant qu'il l'aimait lui-même. Jamais il n'y eut entre nous, je ne dirais pas une détente morale, mais une simple vulgarité. Nous avons été toujours l'un avec l'autre, comme on est avec une femme qu'on respecte. Quand je cherche à me représenter l'unique paire d'amis que nous avons été, je me figure deux prêtres en surplis se donnant le bras. Ce costume ne les gêne pas pour causer des choses supérieures, mais l'idée ne leur viendrait pas, en un tel habillement, de fumer un cigare ensemble, ou de tenir d'humbles propos, ou de reconnaître les plus légitimes exigences du corps. Ce pauvre Flaubert ne put jamais comprendre ce que Sainte-Beuve raconte dans son Port-Royal de ces solitaires qui passaient leur vie dans la même maison en s'appelant « Monsieur » jusqu'à la mort. C'est que Flaubert ne se faisait pas une idée de ce que sont des natures abstraites. Non seulement M. Berthelot et moi, nous n'avons jamais eu l'un avec l'autre la moindre familiarité, mais nous rougirions presque de nous demander un service, même un conseil. Nous demander un service serait à nos yeux un acte de corruption, une injustice à l'égard du reste du genre humain. Ce serait au moins reconnaître que nous tenons à quelque chose. Or, nous savons si bien que l'ordre temporel est vide, vain, creux et frivole, que nous craignons de donner du corps même à l'amitié. Nous nous estimons trop pour convenir l'un vis-à-vis de l'autre d'une faiblesse, également convaincus de l'insignifiance des choses passagères, et pris du même goût de l'éternel, nous ne pourrions nous résigner à l'aveu d'une distraction consentie vers le fortuit et l'accidentel. Il est certain, en effet, que l'amitié ordinaire suppose qu'on n'est pas trop convaincu que tout est vain. Dans la suite de la vie, une telle liaison a pu par moments cesser de nous être nécessaire. Elle reprend toute sa vivacité chaque fois que la figure de ce monde, qui change sans cesse, amène quelque tournant nouveau sur lequel nous avons à nous interroger. Celui d'entre nous qui mourra le premier laissera à l'autre un grand vide. Notre amitié me rappelle celle de François de Sales et du président Favre. Elle passe donc ces années temporelles, monsieur mon frère. Leurs mois se réduisent en semaines, les semaines en jours, les jours en heures et les heures en moments, qui sont ceux-là seuls que nous possédons. Mais nous ne les possédons qu'à mesure qu'ils périssent. La conviction de l'existence d'un objet éternel, embrassé quand on est jeune, donne à la vie une assiette particulière de solidité. Que tout cela, direz-vous, est peu humain, peu naturel, sans doute, mais on est fort qu'en contrariant la nature. L'arbre naturel n'a pas de beaux fruits. L'arbre produit de beaux fruits dès qu'il est en espalier, c'est-à-dire dès qu'il n'est plus un arbre.